Téchaud d'Alberlo. Commentaire sur le Koan 19 du Mumon Khan. L'esprit ordinaire, c'est la voix. Le Koran se lit comme suit. Joshua demanda à Nansen, « Qu'est-ce que la voix ?» Nansen répondit, « La voix, c'est l'esprit ordinaire. » Joshua, « Comment peut-on y accéder ?» Nansen, « Plus tu cherches à l'atteindre, plus tu t'en éloignes. » Joshua, « Mais si je ne cherche pas, comment pourrais-je savoir si c'est la voix ?» Nansen, « La voix n'est pas du ressort du savoir, ni du non-savoir. Le savoir est illusion, et le non-savoir est absence de discernement. La voix est comme l'espace vaste. Comment pourrait-il être question de ceci et cela, être et non-être. » À ces mots, Joshua s'éveilla soudain. Le commentaire de Mumon. Joshua interroge Nansen qui l'éclaire, mais même si la glace est fondue, le conduit demeure bouché. Même si Joshua a atteint l'éveil, il a dû continuer à l'approfondir pendant 30 ans avant de le réaliser complètement. Et le poème de Mumon, au printemps des fleurs, en automne la lune, en été le vent frais, en hiver la neige. Si l'esprit n'est pas encombré de choses inutiles, c'est la meilleure saison de l'humain. Ce Koan est le Koan fondamental du Centre Zen de Montréal. Notre pratique ici, et cela veut dire aussi chez vous, est une pratique qui vise à pénétrer le plus profondément possible ce Koan. Alors, que dit ce Koan? Comme vous le savez sans doute, l'on ne peut poser la question de cette manière lorsqu'il s'agit d'un Koran. On ne peut demander « Que veut dire ce Koran ?» Il vaut mieux demander « Comment puis-je connaître le sens de ma propre vie à travers ce Koran ?» Quand vous pratiquez le Zen, vous pratiquez votre propre vie. Votre vie est la pratique. Je dis souvent, et il ne s'agit pas là simplement d'une jolie phrase zen, ne venez pas ici pour pratiquer le zen, ne devenez pas bouddhiste. Ou si vous voulez être bouddhiste, fréquentez un autre centre. À quoi bon être bouddhiste? À quoi bon pratiquer? À quoi bon pratiquer avec les koans, suivre la respiration, s'asseoir en lotus? Un maître a dit, s'il suffisait de s'asseoir, toutes les grenouilles du royaume seraient éveillées. Non, non. Quand j'anime les ateliers d'introduction à la pratique, je dis toujours que le sujet de la première causerie est « Pourquoi pratique-t-on du zen ?» Et je poursuis en disant qu'on pratique le zen pour savoir pourquoi on pratique le zen. Presque toujours, les gens rient. Pourtant, ce n'est vraiment pas une plaisanterie. C'est la vérité. Si vous croyez savoir pourquoi vous pratiquez le zen, ce n'est pas le zen que vous pratiquez. Non, c'est quelques techniques, quelques façons, une certaine forme de commerce. Le problème avec le zen, c'est qu'il paraît exotique, spécial. Nous portons des robes, méditons devant un mur, nos rituels paraissent étranges, et cela est malheureux. Tout cela suggère une forme d'exotisme. Mais si nous ne portons pas ces robes, des personnes arriveraient peut-être en t-shirt avec toutes sortes d'inscriptions. Il est difficile de dire aux gens, on ne fait pas ça, on ne porte pas ça. Il est beaucoup plus simple de porter des robes, c'est tout. C'est pourquoi nous portons des robes. Tout le monde est vêtu de la même manière et il y a de nombreux avantages à cela. Et d'ailleurs, je crois que c'est plus confortable que les pantalons. Mais si vous croyez qu'il y a une façon d'arriver au-delà, de trouver le ciel, d'avoir une vie sans difficulté, sans problème, ce n'est pas ici que vous devez venir. Joshua a demandé, qu'est-ce que la foi? Il aurait pu dire, qu'est-ce que le zen? Si l'on vous demande, qu'est-ce que le zen? Qu'allez-vous répondre? Qu'est-ce que le zen pour vous? Cette question est intéressante. Si vous y réfléchissez, vous allez comprendre pourquoi je dis « Ne pratiquez pas le zen. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun zen à pratiquer. » Qu'est-ce que le zen? Suffit-il de vous asseoir jambes croisées? Bien sûr que non. Certaines personnes s'assoient à genoux et d'autres sur une chaise. Dans son livre « Les trois piliers du zen », Philippe Caplot raconte l'histoire d'une jeune japonaise qui, affectée d'une maladie, a pratiqué le zen pendant 5 ans au lit et s'est profondément éveillée. Non, le zen, ce n'est pas s'asseoir les jambes croisées. Est-ce suivre la respiration? Non, parce que lorsqu'on suit la respiration, on réalise que ce n'est pas on qui suit la respiration, c'est plutôt ce on qui est le problème. Mais à quoi bon suivre la respiration? Peut-être est-ce un koan alors? On pratique avec les koans. Mais il faut éviter de croire que les koans sont en dehors du koan de la vie. Les problèmes de la vie sont au fond, le koan de la vie. C'est parce que la vie est un koan que nous pratiquons avec les koans. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur vie de côté pour pratiquer. Ils disent, je vais d'abord m'éveiller et après, je pourrai vivre d'une façon complète. Mais non, ce n'est pas comme ça. Joshua a demandé, qu'est-ce que la voix? La voix, le Tao. Le Tao, toutes sortes d'idées mystiques, mystérieuses, magiques, entourent ce mot Tao. C'est un mot que le Nouvel Âge aime beaucoup. Cela évoque l'exotisme, le sacré. Nous utilisons un mot plus dépouillé, le mot « voix ». Mais ce mot lui-même est superflu. Joshua aurait pu simplement demander « qu'est-ce que c'est ?» C'est assez. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Il s'agit d'ailleurs là du koan fondamental des bouddhistes coréens. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout, simple, direct. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment allez-vous y répondre? Qu'est-ce que c'est? Et Nansen répond, la voix, c'est l'esprit ordinaire. Voilà, l'esprit ordinaire. Mais qu'est-ce donc que cet esprit ordinaire? Ce n'est pas un esprit. On croit qu'il y a un esprit, mais il n'y en a pas. C'est pourquoi nous avons les koans. Les koans sont en quelque sorte des fenêtres. On ne regarde pas une fenêtre, on regarde à travers une fenêtre. L'idée qu'il y a un esprit est la barrière suprême pour une personne engagée sur la voie spirituelle. L'idée qu'il y a un esprit, qu'il y a un moi, un je, qu'il y a la connaissance, qu'il y a l'être, qu'il y a Dieu, qu'il y a Christ, qu'il y a Bouddha, qu'il y a la vérité, qu'il y a la bonté. Autant d'obstacles sur la voie. Nous utilisons ces mots et nous croyons que ces choses qui sont indiquées par ces mots existent. Mais elles n'existent pas. Qu'est-ce que l'esprit ordinaire? C'est le plancher, c'est ma voix, c'est le chant de l'oiseau, l'avion. Ça, c'est l'esprit ordinaire. Mais il n'y en a pas. On croit qu'il y a quelque part une connaissance et l'on cherche. Qu'est-ce que la connaissance? Mais il n'y en a pas. La connaissance n'existe pas. Je ne suis pas, je vous assure, matérialiste. Je ne suis pas l'ami de cet auteur qui affirme que la vie n'est autre que les mouvements des molécules ou quelque chose de semblable. Les matérialistes disent aussi « la connaissance n'existe pas, le je n'existe pas, pas plus que le moi ». Mais ces personnes sont au sud, tandis que je suis au nord. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les mots. Qu'est-ce que l'esprit des mots? Que veulent dire les mots? C'est toujours dans un contexte. C'est pourquoi on peut dire « c'est l'esprit ordinaire » et on peut dire en même temps « il n'y a pas d'esprit ». Vraiment. Ce n'est pas comme si. Et Joshua demande « comment peut-on y accéder ?» Voilà, il est dans le piège. C'est comme quand je demande « qui êtes-vous ?» C'est un Coran, comme vous le savez. « Qui êtes-vous ?» Et voilà, le piège est refermé. Et je regarde les personnes lutter, s'agiter, constamment à la recherche d'une réponse. Qu'est-ce que ce moi ? Qu'est-ce que je suis ? Où est-ce que je vais le trouver ? Comment puis-je ne pas le savoir ? C'est un piège. C'est comme enlever la fée qui n'est pas dans le coin. Comment allez-vous faire? Qu'est-ce que ce jeu? Ce jeu n'existe pas non plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette existence? Qu'est-ce qui existe vraiment? Rien. Sauf ce que vous choisissez. C'est vous qui déterminez ce qui existe. Quand je dis rien, vous dites « Oh non !» Il y a le zendo ici, il y a les coussins, il y a moi, mon corps. Comme j'ai dit, vous avez choisi. C'est comme ça, oui. Ça, c'est le truc. C'est exactement comme quand je dis « vous dormez ». Pour un instant, vous vous éveillez et vous dites « non, je suis éveillé ». Et ensuite, vous ronflez. Nous sommes toujours trop tard. Toujours trop tard. Je dis, qui êtes-vous? C'est trop tard. Trop tard. C'est pourquoi dans la salle du Dokusan, je demande, qui êtes-vous? Non, non, vous êtes trop tard. Mais comment peut-on être tôt? Vous ne pouvez pas. C'est comme si vous essayiez de sauter par-dessus vos propres genoux. Vous vous dites, ce maudit zen, pourquoi ne parle-t-il pas d'une façon simple? Pourquoi doit-il compliquer les choses comme ça? Ce n'est pas moi qui complique, c'est vous. Vous êtes compliqué, ce n'est pas moi. Je dis, il n'y a pas d'esprit, c'est tout. Il n'y a pas un monde, c'est tout. Mais c'est vous qui compliquez parce qu'immédiatement, vous créez un monde entier. Mais c'est vous qui avez choisi, c'est vous qui déterminez s'il y a un monde. Et vous le faites constamment. Et le plus souvent, vous déterminez un monde sombre, obscur, plein de douleurs, plein de conflits, plein d'angoisses. Vous pouvez le remarquer le matin quand vous vous éveillez. Pour un instant, probablement, il y a un moment de clarté. Et puis, vous vous demandez, qu'est-ce qui va me gêner aujourd'hui? Quels vont être mes troubles aujourd'hui? Et un par un, vous portez ces problèmes. Comment peut-on y accéder? C'est exactement comme le dit Nansen. Plus tu cherches à l'atteindre, plus tu t'en éloignes. Pourquoi? Plus vous essayez d'enlever la fille du coin où elle n'est pas, plus vous allez la placer dans le coin. On croit qu'il y a une façon de pratiquer le zen. Beaucoup de personnes arrivent dans la salle du Dokusan et disent « Ma pratique n'est pas bonne. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, comment puis-je pratiquer vraiment? » On croit qu'il y a un sentier et que si on peut le trouver, tout ce qu'il faudra faire ensuite sera de marcher sur ce sentier. On veut ça. On veut la voie d'un chemin de fer. Mais il n'y en a pas. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas le zen, il n'y a pas l'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ce qu'a demandé Joshua. Mais si je ne cherche pas, comment pourrais-je savoir si c'est la voie? Si vous savez ce qu'est la voie, qu'est-ce que vous savez? Ce n'est pas la voie. Vous savez ce qu'est la voie, vous avez des informations maintenant, vous avez une collection de faits, mais ça, ce n'est pas la voie. On ne peut pas savoir ce qu'est la voie. Le savoir, c'est la voie. Et le savoir, c'est la voie parce qu'il n'y a pas le savoir. Nansen dit, la voie n'est pas du ressort du savoir, ni du non-savoir. C'est ça. Il dit exactement la même chose que moi. Savoir est une illusion. C'est l'illusion de savoir. Si vous savez, par exemple, que la voie, c'est de s'asseoir les jambes croisées, vous avez quelque chose maintenant que vous pouvez écrire sur le papier et l'attacher au mur parce que vous avez quelque chose de solide. Mais si vous faites ça, ce n'est pas la voie. Ce sont quelques mots sur le papier. C'est tout. Ou encore quelques mots dans la tête, une pensée dans la tête. C'est tout. Le savoir, c'est une illusion. Ainsi, aux ateliers d'introduction, nous disons, il n'y a rien à faire. C'est ça, vraiment, c'est ça. C'est pourquoi je demande constamment, est-ce que vous suivez la respiration? Parce que si on suit la respiration, on a réalisé, non pas avec la tête, non pas même avec le cœur, mais d'une façon beaucoup plus profonde, qu'il n'y a rien à faire. Quand vous respirez le soir, quand vous dormez, qui respire? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas une absence de moi. On ne peut pas dire, c'est une absence de moi. Comment ce qui n'existe pas peut-il être absent? Mais le problème est que si on dit « il n'y a rien à faire », tout le monde s'interroge. Comment peut-il dire qu'il n'y a rien à faire? Je suis étonné quand on vient me poser cette question, comme s'il n'y avait pas une différence entre « il n'y a rien à faire » et « on ne doit rien faire ». Nansen a dit « le non-savoir est absence de discernement ». C'est ça. Il y a des gens qui disent « Je suis face à un mur. » Et je dis « Bon, enfin, maintenant, on peut pratiquer pour la première fois. » On dit dans le zen qu'il faut épuiser toutes les ressources de son être. Et c'est comme ça. Cet esprit agité, ce vouloir savoir, ce vouloir saisir, c'est épuisé. Quand on s'interroge au sujet de l'esprit ordinaire ou de la vie ordinaire, de la vie quotidienne, La plupart des gens croient qu'il s'agit d'une espèce de concours. On doit gagner. On doit être le premier. On doit réussir. On a peur d'échouer, de rater la cible. Dans le christianisme, c'est dans notre mythologie, n'est-ce pas? Le jour du jugement viendra. Si on a réussi, on devient ami de Dieu. Si on a échoué, on est l'ami du diable. Mais surtout, on doit réussir. Il y a des personnes qui sont nerveuses, angoissées. Quand j'étais homme d'affaires, je côtoyais des diplômés d'université avec un grade d'ingénieur et un plan de carrière. Mais ils étaient tellement angoissés parce qu'ils avaient passé l'âge pour tel ou tel niveau d'avancement dans leur carrière. Alors ils regardaient les autres personnes de la compagnie et se demandaient « Comment cela est-il possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ma carrière est terminée? » C'est exagéré, oui. C'est le problème de posséder un titre universitaire. Mais néanmoins, c'est dans l'esprit de tout le monde. On doit être le premier. Et si on ne peut pas être le premier, on sera le dernier. Parce qu'il y a toujours un dernier. Je serai le pire. Ça, c'est mon plan de carrière. C'est pourquoi quand on demande, qu'est-ce que la voie? On se demande plutôt, comment est-ce que je peux enfin réussir? Nous connaissons tous des histoires à propos de ces maîtres qui meurent en se tenant sur la tête, qui peuvent faire des choses extraordinaires, qui sont toujours calmes, les plus calmes du monde. Et nous disons, ah oui, si je croise les jambes, si je suis la respiration, bientôt je serai le premier. Alors, s'entendre dire que c'est la vie ordinaire, ce n'est pas tout à fait assez. C'est pourquoi tant de gens sont passés dans ce zendo, probablement 3 000 à 4 000 personnes. Et regardez autour de vous, nous avons 200 à 300 membres. Un quart d'entre eux ne seront plus ici dans 6 mois. Parce qu'on arrive ici pour être le premier, et tout ce qu'on y trouve, c'est la vie ordinaire. À quoi bon ça? C'est pour ça que ces personnes se butent à un mur. Qu'est-ce qu'on s'épuise dans le zen? On épuise le vouloir d'être premier. Quand c'est épuisé, le fait qu'on est complètement uni, complètement un, sans pareil, peut apparaître. Et l'on croit que dans ce cas, on sera le premier. Non. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire. Et croyez-vous donc que demain, vous allez dire à votre patron, « Hier, je me suis éveillé. » Et qu'il va augmenter votre salaire? Non. Il va probablement plutôt croire que vous êtes fou. Qu'est-ce que la voie? Et Nansen dit, la voie est comme l'espace vaste. Mon Dieu, il a dit que c'était la vie ordinaire, que c'était l'esprit ordinaire. Et maintenant, il dit, c'est comme l'espace vaste. Comment cela se peut-il? Comme c'est contradictoire, ce zen. Qu'est-ce que c'est l'espace vaste? Peut-être avez-vous déjà été au bord de la mer et un de ces jours complètement clair, en regardant l'horizon, avez-vous pu voir une 40aine de kilomètres sans obstruction, sans barrière? C'est ça l'espace vaste? Non, ce n'est pas comme ça. Ce zendo, c'est l'espace vide, l'espace vaste. Ce zendo, chez vous, au bureau, dans les magasins, c'est l'espace vaste. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Bodhidharma, lorsque l'empereur Wu lui a demandé « Quel est votre enseignement a répondu, le vide vaste et aucune chose qu'on peut nommer sainte. Je souligne toujours aucune chose aux ateliers. Mais probablement personne ne remarque que je souligne cette expression. Il y a aussi ce koan. Le monde est vide et vaste. Pourquoi au son de la cloche mettez-vous votre robe? Le monde est vide et vaste. Qu'est-ce que ça veut dire, vide et vaste? Pourquoi dit-on que la vie ordinaire est comme l'espace vide et vaste? Alors que c'est la claustrophobie de la vie ordinaire qui est tellement difficile à supporter. Comment peut-on dire que ce zendo est comme le vide vaste? C'est une autre façon de dire que ça n'existe pas. Et vous savez bien aussi que j'utilise ce mot « exister » d'une façon un peu différente, parce que je l'utilise de la façon originelle. Exister veut dire se tenir au dehors. Ex veut dire au dehors. Sistere, se tenir. Et c'est pourquoi rien n'existe. C'est ce ça qui existe qui est le problème. C'est ce ça qui existe qui sont les barrières, les obstacles sur la voie. Et quand il dit que c'est comme l'espace vaste, il veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il n'y a pas de barrière. Le monde n'existe pas. L'esprit n'existe pas. Quand vous demandez qu'est-ce que l'esprit, ça devient une barrière. Quand vous demandez qu'est-ce que je suis, une autre barrière. Quand vous demandez qu'est-ce que c'est, une autre barrière. Eh bien, pourquoi donne-t-on un Coran? Pour créer des barrières? Non, pour vous montrer comment vous faites des barrières. Je demande, qu'est-ce que mot? Une autre barrière. Sans doute parce que c'est un mot japonais. On croit que c'est quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Mo. Et parce qu'un million de personnes ont pratiqué avec ce Coran, ce doit être forcément difficile. Alors on n'est pas étonné de devoir pratiquer des années, des années, des années pour pénétrer cette fille qui n'est pas dans le coin. C'est pourquoi on parle de Mumonkan. Mumonkan, c'est une barrière qui n'est pas là. Une barrière sans porte. Comment puis-je vous expliquer qu'il n'y a pas de fée dans le coin quand vous essayez d'enlever cette fée? Non, je dois dire, enlève la fée, jusqu'au moment où vos ressorts sont épuisés. Et à ce moment, vous pouvez dire vraiment, oui, enfin, il n'y a pas de fée. Parce que quand vous vous éveillerez, vous direz, « Ah, il n'y a pas d'éveil. » Dans le commentaire, Mumon dit, « Joshu interroge Nansen qui l'éclaire. Mais si la glace est fondue, le conduit demeure bouché. Même si Joshu a atteint l'éveil, il a dû continuer à l'approfondir pendant plus de 30 ans avant de le réaliser complètement. » Des personnes me demandent, pourquoi pratiquez-vous? Parce que je suis débutant, c'est tout. Bouddha a pratiqué. Dans les sutras, surtout les sutras du Theravada, on parle souvent du Bouddha qui vient de terminer sa méditation et commence à parler, ou qu'il a médité avec ses disciples, etc. Mais si on est éveillé, on est éveillé, direz-vous. Non. Les personnes qui croient cela pensent qu'il y a l'éveil. Non, il n'y a que la vie ordinaire. Et quel est le fond de la vie ordinaire? Qu'est-ce que c'est la profondeur de la vie ordinaire? la profondeur. Voilà le mot. La pratique est faite pour augmenter la richesse de la vie, non pas pour élargir les possibilités dans la vie. Ça, c'est le nouvel âge. C'est expansion of consciousness qui veut l'expansion du moi. Non. La pratique, c'est approfondir, enrichir la vie. C'est comme écouter de la musique classique, par exemple, une symphonie de Beethoven. La première fois, oh, c'est magnifique. La deuxième fois, oh, oui, c'est vraiment magnifique. La dixième fois, ah oui, je crois que j'ai enfin compris Beethoven. La centième fois, oh mon Dieu. Y a-t-il une dernière fois à l'écoute d'une symphonie de Beethoven? Quand l'a-t-on assez écouté? C'est vraiment une question stupide. Il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. Qu'est-ce que c'est ça? On ne peut pas le dire, on ne peut pas l'expliquer. Ce n'est pas quelque chose qui est là. Qu'est-ce que c'est la richesse? On ne peut pas l'expliquer. Qu'est-ce que c'est la richesse de la vie? C'est pourquoi il y a toujours ce tourment en surface. Mais dans le fond, il y a de plus en plus de calme. Comme a dit Nisargadatta, une personne éveillée est une personne tranquille. Et c'est vrai, il y a toujours cette tranquillité. Bien sûr, on passe à travers les problèmes de la vie, et il y en a des problèmes dans la vie. Si ce ne sont pas les vôtres, ce sont ceux de votre famille, de vos amis. C'est Tchétchène, par exemple, dans ce théâtre à Moscou. Quelle horreur! On ne peut pas lire cette information en étant complètement indifférent. Ce sont des êtres humains qui souffrent, y compris les terroristes. Et ces femmes, ces pauvres femmes avec ces explosifs sur leur corps, comme elles étaient désespérées. Non, la vie n'est pas sans problème. La surface du lac est parfois calme, parfois troublée, et on ne va pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Et si on sait vraiment, on ne veut pas que ça s'arrête, parce que la richesse de la vie se trouve là. Cette question de s'éveiller n'est pas un concours. Il ne s'agit pas de devenir la première personne, le premier Québécois, le premier Montréalais. Non, il n'y a pas d'Olympique ici pour les personnes qui respirent. Qu'est-ce que c'est la voix vraiment? Comme c'est extraordinaire de pouvoir poser cette question. Comme c'est merveilleux. Entrer dans la merveille de la vie, ça c'est la richesse. Trouver la gratitude, la compassion. Ça, c'est la richesse. Au printemps, des fleurs. En automne, la lune. En été, le vent frais. En hiver, la neige. Que voulez-vous de plus ?